Cinérama.
Cette nuit, notre piston émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à foutre.
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste, les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Bonjour et bienvenue à cette émission Cinérama, émission hebdomadaire de cinéma sur Divergence FM. Nous sommes le mercredi 14 décembre. Bonjour Marine.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Et bonjour à Manu, Manu Legagne, notre invité.
Bonjour.
Voilà, puisqu'on va parler de l'absurde séance, c'est la deuxième projection de la saison. Et il se trouve que vous êtes nouveau dans cette absurde séance, puisque l'an dernier nous avions cette habitude de recevoir Adrien, qui nous parlait de ces films de série B qui lorgnaient vers la série Z, avec du sang, de l'hémoglobine et des filles en short, un peu. Voilà.
Oui.
mais là, on verra que c'est un autre film que vous avez choisi pour cette deuxième séance, puisque ce sont
Les
Dents de la Mer. Voilà. Marine, de quoi tu vas nous parler ?
Moi, je vais chroniquer, pour ma part, Shame. Je vais parler de The Lady, le dernier Luc Besson, et Okie's Movie, le dernier Hong Sang-soo.
Et puis, non seulement nous avons un invité, mais nous aurons aussi une interview. J'ai pu rencontrer Delphine Coulon. Delphine Coulon qui a réalisé son premier film qui s'appelle 17 filles, avec sa sœur Muriel. Une romancière qui vient aussi du documentaire, elle en a fait pour Arte, et puis eh bien, elle nous parlera de ce film qui est quand même l'histoire de 17 filles qui tombent enceintes en même temps, et c'est inspiré d'une histoire vraie, ce sera un peu plus loin dans l'émission Cinérama.
Cinérama, Cinérama sur Divergence FM.
Une dispute éclate dans une maison isolée dans les Vosges. Jean, le fils cadet de la famille, est jeté dehors, il rejoint des chasseurs pour une battue et apprend à tuer. La nuit suivante, la voiture de sa mère est incendiée. On l'accuse, Jean disparaît alors dans la forêt. Bouh, c'est ainsi que le distributeur présente La fin du silence. Un thriller vosgien, un drame des montagnes, voilà comment on pourrait qualifier le premier long-métrage de Roland Edzard. C'est un premier film, au moins un premier film distribué pour ce réalisateur qui est passé par les Arts Déco, un CV d'artiste avant d'avoir une carte de visite de cinéaste. Et l'on sent que le réalisateur prend ses aises avec la narration. Le premier personnage de ce thriller atypique, c'est l'environnement. Cette maison isolée où vit une famille avec 4 enfants, une maison en bordure de forêt. Un temps rude, la pluie, la brume, la neige, de la boue, de l'humidité qui suinte de partout. Et puis le deuxième personnage, c'est inévitablement ce garçon brut, silencieux, qui se fait jeter du lit et de la maison par son frère et qui est tenté par le pire une fois qu'il a une arme de chasseur entre les mains. Il y a de quoi faire un carnage, va-t-on assister au pire, un déchaînement de violence. Le film entretient le suspense.
Jean!
Touche pas! Touche pas! Touche pas!
Qu'est-ce que vous attendez pour le mettre dehors? Il fait plus aucun effort.
Tu veux qu'il aille où?
Il est majeur, et c'est pas votre problème.
Non, c'est pas notre problème, non.
Alors? Qu'est-ce qui t'est arrivé?
On sait quoi ta chasse, là?
Thank you.
L'ambiance sonore est à peu près celle qu'on entend dans cette bande-annonce. Elle tente de donner une dimension à la rage de ce garçon rejeté par les siens. Alors le malaise est palpable et on s'attend au pire. La caméra nerveuse, les plans serrés contribuent à installer le malaise et quand les plans sont fixes, c'est pour surligner l'immensité de cette montagne boisée. Et la nature immobile répond parfaitement à l'agitation du personnage. Dans le style, le réalisateur parvient parfaitement à nous emmener dans l'étrangeté de la conscience. Il parvient à planter un décor de campagne avec sa famille, dont le père et le fils sont sans relâche au travail. Et quand ce n'est pas le travail du bois, c'est une canalisation à déboucher parce que tous les robinets déversent une eau souillée, une eau aussi prise dans la montagne. On voit aussi le rendez-vous des chasseurs dans un petit troquet de village où la beuverie partage la première place avec le machisme. Mais une fois qu'on a fait le tour du propriétaire, le chasseur qui prend le garçon sous son aile, sa femme et puis la mère du fameux garçon, eh bien on attend le dénouement. Alors le film avait pour premier titre « Les gens ne savent pas peut-être ». Et le spectateur est effectivement face à ce constat. Il entend des bribes de conversation, sent bien que tous ces gens ont des choses à se dire, mais ne se le disent pas. Il y a bien un secret caché par les uns et les autres, mais on ne saura jamais lequel. Et à la rigueur, peu importe, ce qui semble intéresser le réalisateur, c'est le résultat. Une incompréhension, une rage, un élan dévastateur qui pourrait se résoudre avec des mots. Mais des mots, la famille, comme le scénario, en ont trop peu. Alors le film est ramassé en 1h20, il aurait pu être encore plus court, être un moyen métrage. C'est peut-être le seul reproche que l'on peut faire à La fin du silence. Sa forme est maîtrisée au sens où l'image colle parfaitement avec son sujet, mais le rythme de cette tragédie qui s'annonce s'essouffle parfois et le suspense en prend un coup. Mais ce défaut est largement gommé par une image qu'on voit trop peu souvent au cinéma, sauf dans une autre mesure chez un Philippe Grandrieux. Comme Grandrieux dans Sombre ou un lac, Roland Etzard a ressenti le besoin de laisser un lieu, la montagne, la maison isolée, guider le film. On est donc là beaucoup plus dans la sensation, l'impression visuelle que dans une histoire balisée. Et on ne s'en plaindra pas. Nous étions trois à cette projection. C'était dans une petite salle du Diagonal. Mais Marine, vois-tu, ça me fait penser, quand on a vu la projection des réalisateurs de la région lors du Festa Film, il y avait un film qui détonnait dans sa forme.
Terre d'ombre.
Terre d'ombre, voilà, qui avait été réalisé, je crois, par...
Par Marin Esteban, qui est maintenant au Beaux-Arts de Paris.
Beaux-Arts de Paris, voilà. Et on sentait qu'il y avait dans cette forme, avec un montage saccadé, des plans, plutôt des gros plans, mais voilà, en montage saccadé, on sentait qu'il y avait un style qui émergeait. Et c'est un peu ce que j'ai ressenti dans La fin du silence, c'est-à-dire que ça détonne vraiment par rapport à tout ce qui peut être fait dans le cinéma français. Et c'est ce qui fait du bien, et c'est pour ça que je vous invite quand même à aller voir cette espèce de thriller vosgien.
Cinérama.
Bon, est-ce que de voir ce film, ça vaut le coup de se prendre une méga prune, Fourrière et compagnie ?
Sur Divergence FM.
Et c'est parti pour l'absurde séance.
Cause du décès, attaqué par un requin.
Bon, c'est pas la peine qu'on s'amuse à faire un blind test avec les auditeurs. Je pense que tout le monde a reconnu ce chef-d'œuvre, quand même, de Steven Spielberg, film de 1973.
1975.
75.
Voilà. En fait, il s'agit du troisième film de Spielberg. Enfin, le deuxième film pour le cinéma, puisque son premier film, Duel, était à l'origine un téléfilm, et qui, du fait qu'il ait gagné un prix, notamment le Grand Prix à Avoriaz, s'est retrouvé en salle l'année d'après. Entre Duel et Les Dents de la Mer, il a tourné un one movie qui est assez méconnu, qui s'appelle Sugarland Express, avec Goldie Hawn et Warren Wattes, il me semble. Et un film un peu différent de tout ce qu'a pu faire Spielberg par la suite. Donc quand il se retrouve sur Les Dents de la Mer, Spielberg, c'est un jeune cinéaste de 28 ans, et peu expérimenté à des gros budgets. C'est son premier gros budget. C'est un film produit par la Universal. Et ce qui est assez frappant, c'est que en 75, il y avait très peu de films de ce type à gros budget. Le film a vraiment un scénario de série B. Et un film fantastique à gros budget, ça n'existait pas vraiment. Le seul, à peu près, dans cette période, ça doit être L'Exorciste, qui était produit là par la Warner. Et habituellement, avant, si on regarde tout ce qui était film de monstres marins, on se retrouve avec des films bis, de série B, voire Z, des productions Corman ou des films de Jack Arnold comme L'étrange créature du lac noir. Il y avait peu de films de requins. En cherchant, on trouve bien, il y a un film de Bottischer qui s'appelle Killing Shark, de 1950 sur les requins, et aussi un film de Samuel Fuller de 69 qui a été tourné, qui s'appelle, si mes souvenirs sont bons, Shark, le mangeur d'hommes.
Alors, bah, par exemple, ce sera une des premières questions pour cette absurde séance. Pourquoi ne pas avoir choisi justement un de ces vieux films et avoir pris celui justement qui a été produit par les grands studios ?
Alors, bon, après, il y a le problème de trouver des copies sur des vieux films, qui c'est pas toujours évident. Un ancien film comme le film de Fuller n'est pas vraiment un film bis non plus. Hein. Y a pas de, c'est pas un scénario de série B, c'est une histoire de chasse au trésor. Donc, il me semble que la partie des requins, elle est même assez anecdotique. L'intérêt peut-être de voir Les Dents de la Mer, c'est que je pense que peu de gens l'ont finalement vu au cinéma. Moi, je l'ai découvert, comme beaucoup, à la télé au milieu des années 80. Et à mon avis, la puissance quand même de mise en scène du film peut s'apprécier pleinement, à mon avis, sur grand écran.
Je le capturerai, votre bestiau, moi, mais ce ne sera pas du tout cuit, parce que c'est un filou. Sortir un requin, c'est pas taquiner la plaie dans les dents ou la perchette. Le requin, il avale tout ce qu'il voit. Un coup de dent, un coup d'attendrisseur, et ça descend. Je sais bien qu'il y a urgence. Pour faire appliquer le touriste, vu que le Pékin, il met du beurre dans le plat d'épinards. Mais ce sera tout sauf de la rigolade. Ma peau, elle vaut davantage que 3000 dollars, pas vrai, chef? Pour 3000 dollars, je vous le trouverai. Mais pour l'attraper et le zigouiller, c'est 10 000 qu'il me faudra. La balle est dans votre camp, à vous de jouer. Vous voulez cracher, vous refaites surface, ou vous bloquez les fonds, et c'est la soupe populaire pour le petit commerce.
Alors là, le film a déjà commencé. Quand on entend cette scène, là, il y a le chef de la police, donc qui est le personnage, j'ai envie de dire, principal, après le requin, évidemment. Et puis, il y a ce tueur de requins, là, qui explique que, voilà, moi, je peux vous le capturer. Après, il y a des hésitations avec les autorités, hein, qui se disent, mais finalement, voilà, si on ferme la plage, on va se retrouver avec un manque à gagner. Hein, ce que dit effectivement le personnage, c'est-à-dire que les gens vont se retrouver sur la paille, quoi. Donc, c'est tout ça, l'enjeu, finalement, de ces Dents de la Mer.
Et un enjeu qui a été repris mais des centaines et des centaines de fois dans de nombreux films, que ce soit Piranha ou des séries B, voire Z comme La Mort au Large. C'est-à-dire que je l'ai revu la semaine dernière et j'étais frappé. J'étais frappé par le fait que toutes les scènes, on a l'impression de les avoir déjà vues 50 fois. Ce n'est pas, c'est pas le problème de Spielberg. C'est que vraiment, c'est un film qui a été littéralement pompé plan par plan parfois, notamment la séquence d'ouverture, la fille qui court sur la plage, qui se retrouve dans l'eau, qui se retrouve ballottée de droite à gauche, et puis sans qu'on voit en fait la présence du
c'est du ça requin. Qui est important, hein, c'est que ce requin, finalement, dans la toute première partie du film, on ne le voit pas. Alors, on voit les conséquences, mais on ne le voit pas vraiment. Enfin, c'est-à-dire qu'après, on le voit en gros plan qu'à la fin du film, hein. C'est bien ça.
Alors, on ne le voit pas pour plusieurs raisons. Je pense que déjà, c'est un parti pris de Spielberg, c'est-à-dire de jouer sur beaucoup sur le hors-champ. Il y a même une scène qui est très très forte au début du film où Roy Scheider, le chef de la police, surveille la plage. Et il crée un suspense de champ et de hors-champ en mettant des personnages qui passent devant la caméra. C'est-à-dire qu'il crée une espèce de suspense où parfois on ne voit pas ce qui se passe sur la plage parce que des personnages passent devant la caméra. Et je trouve que là, il y a un vrai talent formel d'un cinéaste qui est vraiment en pleine possession de ses moyens et il n'a même pas 30 ans. Après, il y a aussi, je pense, le problème technique. C'est-à-dire que même si c'est une grosse production, d'une certaine manière, par rapport à des tas de séries B horrifiques, ils se sont retrouvés avec des problèmes techniques pour les effets spéciaux. Donc, on se retrouve avec les 2-3 plans où on voit le requin qui fait un peu marionnette, un peu baudruche. Mmh. Ils ne sont pas très, très réussis. C'est pas très grave parce que c'est très très rapide et c'est très furtif finalement. On doit le voir 2 fois en entier, mais pas plus.
Et c'est vrai que là, c'est la différence avec Piranha, hein, qui a complètement pompé les Dents de la Mer, qui fait même un clin d'œil parce que Roy Scheider est le premier à mourir, je crois. Hein.
C'est, alors, le Piranha d'Aja, c'est pas Roy Scheider, c'est le scientifique.
Oui. Je sais plus, j'ai perdu son nom. Oui. Enfin, en tout cas, voilà, il y a ce petit clin d'œil. Effectivement, Piranha va dans le second degré parce qu'il y a une insouciance de tous ces baigneurs. Mais ils n'ont pas eu ce problème, effectivement, des effets spéciaux, puisque eux, ils ont tout numérisé.
Tout est en synthèse. Et voilà. Puis, C'est intéressant de regarder les deux films pour mesurer la, je vais pas dire l'évolution, parce que c'est pas vraiment ça, vraiment une mutation du cinéma de genre à gros spectacle. Quand Spielberg fait Les Dents de la Mer en 75, on est face à un film très premier degré, très sérieux. Il n'y a pas une note d'humour dans tout le film. Il s'attache, les personnages sont quand même attachants, même s'ils sont stéréotypés. Spielberg joue sur la lenteur, sur le suspense, il essaye d'en montrer le moins possible. Aujourd'hui, tout ce cinéma-là s'est carrément transformé. Un plan ne dure pas plus de 3 secondes, il faut mettre du sang partout, il faut faire éclater les ventres, il faut couper les têtes. Du coup, ça perd, c'est souvent jouissif, c'est souvent marrant, mais ça perd beaucoup d'efficacité aussi.
Ça, c'est des doigts de gonde, hein, monsieur Hooper. Juste au point à compter le pognon toute une vie.
Ça suffit, ça suffit. Qu'est-ce qu'il croit, celui-là? Je suis pas forcé de supporter ses fantasmes de prolo à la gomme.
Dites-vous, vous vous conduirez autrement une fois en mer, j'espère.
Peut-être que j'y serai seul.
C'est moi qui paye, j'invite qui je veux.
Exact, c'est vous qui invitez et qui payez, mais c'est mon bateau. Vous serez à bord de mon bateau. Je suis mousse, matelot, pilote et capitaine. Je le prends pour faire du lest.
Alors là, vous parlez effectivement des stéréotypes des personnages. On a là les trois personnages qui vont se retrouver sur le bateau à la traque de ce grand requin blanc. Donc il y a le dur, hein, celui qui a l'habitude d'attraper les requins. Il y a le scientifique qui, lui, a une connaissance plutôt théorique et qui veut prendre sa cage parce qu'il a l'habitude de le faire. Et puis l'autre se moque de lui. Enfin, il dit, oui, vous allez prendre votre cage, vous allez aller sous l'eau. Bah, tant mieux, au revoir. Et puis il y a Roy Scheider qui est là, qui lui essaie de un peu de tempérer tout ce beau monde.
Oui, puis c'est le seul personnage qui est là aussi par... Il n'est pas intéressé. Il n'est pas intéressé par attraper le requin,
si ce n'est pour le résultat.
Pour protéger les gens. Alors que le scientifique, c'est une démarche scientifique. Le chasseur, c'est un défi qui se révèle à lui-même. Voilà. Bon, après, ce sont des personnages très classiques du cinéma de genre, et notamment du film de bestioles comme ça, bestioles sous-marines.
Avec quand même une grande gueule, hein. Enfin, c'est vrai que... notamment oui, le capitaine. C'est une vraie grande gueule, celui-ci. Alors, donc ça, Les Dents de la Mer, ce sera demain, c'est à 20h30 pour la deuxième séance de l'absurde séance.
Voilà, c'est la deuxième séance à Utopia. Donc on reprend un peu aussi le même principe, c'est-à-dire qu'il va y avoir un quiz en entrée avec des DVD à gagner, dont Les Dents de la Mer.
Facile.
Voilà, Les Dents de la Mer 1 et 2. Et après, je laisse, il y aura d'autres surprises. Hein. Voilà, on essaie de prévoir une petite animation, de nouveau, un peu comme faisait Adrien l'an dernier. On essaye de prévoir donc une animation avec déguisement. Demain, on va compiler un certain nombre de bandes annonces de films plutôt bis, dont La mort au large de Castellari, qui est un remake quasiment plan par plan du film de Spielberg. Je pense que dessus, il y aura aussi Killer Crocodile 1 et 2. Un film de Corman, je ne sais pas lequel on a choisi, mais il me semble que c'est L'Attaque des crabes géants. Voilà. Donc, on a prévu 6-7 films comme ça, de bande-annonce, en fait.
Mais c'est vrai que vous pourriez tenir avec, effectivement, ces films de bestioles assoiffées de sang. Vous pourriez tenir toute l'année pour l'absurde séance.
Ah oui.
Enfin, largement, et même pour 10 ans, non?
Je pense que les gens s'en lasseraient. Mais c'est vrai que, disons, entre 75 et... Et la fin des années 80, il y a eu un nombre impressionnant de films comme ça, de bêtes sous-marines, hein, que ce soit des requins, des alligators, des crocodiles, énormément de productions italiennes. J'ai regardé, il existe même un Turkish Joss, c'est-à-dire une version turque des Dents de la Mer, où le réalisateur reprend littéralement la musique de John Williams, puisque c'est quand même cette musique participe grandement à l'efficacité du film, en fait. Hein. Et puis récemment, il y a eu un nombre incalculable aussi de téléfilms. Je ne sais pas pourquoi. Il y a eu une mode avec des Shark Attack 1, 2, 3. Il y a eu un Shark Attack Malibu qui mélangeait une sorte de tempête avec un requin. On ne sait pas trop pourquoi, mais bon,
oui.
Les mélanges sont parfois étonnants.
Non, mais quand les scénaristes n'ont plus d'idées, hein, ils peuvent aller...
C'était le tsunami, voilà. Où, C'était le mélange entre un tsunami et un requin.
Bon, autant que faire.
Pourquoi pas.
Donc, deux gros films de genre. Et par contre, c'est une franchise quand même, Les Dents de la Mer. Hein. Il y a eu le 1, le 2, le 3.
Il y a le deuxième qui est réalisé donc, par un cinéaste français, en fait, Jeanne Ozouark, qui avait fait La vengeance d'une blonde avec Marielle Chazelle. Ça peut paraître curieux, mais c'est assez marrant de le rappeler. Bon, il est aussi réalisateur des Insectes de feu et d'un film qui s'appelait Quelque part dans le temps, qui était un très très beau film. Et bah, le 2 fonctionne bien, hein. Le 2 c'est un film assez classique qui reprend en fait le personnage de Roy Scheider, puisque c'est le seul qui continue à participer à l'aventure. Le 3e avait été tourné dans les années 80 en 3D, comme quoi c'est pas nouveau. Une 3D assez médiocre, mais oui. D'ailleurs ces films-là, une fois qu'ils sont passés en 3D en salle, après on a retiré la 3D parce que c'était pas très au point. Et puis surtout, le film est assez médiocre.
Voilà, hein, ouais. la franchise s'épuise.
Mais le pire, c'est le 4, hein, puisque c'est la revanche. C'est Piranha, je veux dire.
Non.
Les Dents de la Mer, la revanche. Et là, c'est le fils du...
Le fils du requin.
Du requin, qui revient se venger de la famille de Roy Scheider. Alors là, le scénario, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête d'un scénariste pour inventer une histoire aussi débile.
D'accord. Donc là, à part une bonne tranche de rire, finalement, il n'y a pas grand-chose en...
Il est même pas assez Z, je dirais, pour être intéressant, en fait.
Ouais, même déguisé, on n'arrive pas à rire.
Non.
Bon. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Manu Le Gagne, d'être venu à Cinérama pour présenter cette deuxième séance de l'Absurde Séance. Donc, une initiative qui vient de Nantes, hein, il y a quelques années déjà, hein, voilà, qui propose un autre cinéma ou en tout cas un éclairage sur... sur une autre partie du cinéma.
Alors pour rassurer les gens, on va pas passer la prochaine fois Apocalypse Now. Enfin, là on reste, on va revenir vers des choses peut-être un peu plus soit série B, soit étrange. Là, je peux pas vous donner exactement la programmation à venir, mais on risque de passer un film qui s'appelle La Course à la Mort de l'an 2000, si c'est possible, ou Les Seigneurs de la Route, avec un film de Paul Bartel avec David Carradine et Sylvester Stallone dans un de ses premiers rôles. Il est possible aussi qu'on passe Tetsuo, un film japonais assez barré. Et puis, on va peut-être organiser une soirée avec Artus, un éditeur indépendant de DVD. Donc, voilà, c'est en projet, il n'y a rien de sûr. Et donc, j'espère que ça aboutira, en fait.
Eh bien, vous aurez l'occasion de revenir dans cette émission. Merci beaucoup.
Merci.
Voilà, Manu Le Gagne a quitté les studios et donc on le répète, l'Absurde Séance avec des surprises comme il l'a dit et des cadeaux et c'est pas rien, c'est au cinéma Utopia, c'est à 20h30 et c'est demain jeudi.
Cinérama sur Divergence FM.
Allez, après les séries B, on passe au X avec Shame, désolé pour cette transition.
« My sister's playing downtown somewhere.
Can I stay for a few days? Here's to feel free.
That's my boss.
Your hard drive is filthy. I mean, it is dirty.
Slowly.
I'm trying to help you.
How are you helping me, huh? You come in here, and you're a weight on me. You're a burden.
You want to get out of here?
We're family. We're meant to look after each other.
Hey, Romeo!
Brandon, please, will you pick up the phone?
Après Bronson et surtout Hunger qui appartient à cette espèce de film qui ne vous lâche plus après les avoir vus, Steve McQueen, deuxième du nom, revient avec Shame dans lequel il retrouve l'acteur Michael Fassbender. Pas de grève de la faim ni de métamorphose physique stupéfiante cette fois-ci. L'acteur endosse la carapace en apparence anodine d'un boursier new-yorkais en réalité accro au sexe. Un réalisateur rare et surdoué que l'on attend au tournant avec un sadisme cinéphile, un des acteurs les plus charismatiques du moment et qui se balade à poil la moitié du film, ce qui ne gâche rien, et la très intense Carey Mulligan, une équation un peu trop parfaite pour être honnête. Eh bien, on ne sera toujours pas déçu cette fois-ci. Steve McQueen, initialement plasticien, qui a pourtant failli arrêter le cinéma après le difficile tournage de Hunger, n'a pas perdu son talent pour le cinéma frontal. Dans un New York sombre comme une nuit sans fin, nous suivons Brandon dans sa quête sans fin de jouissance déshumanisée, souvent tenté par l'amour, mais toujours finalement séduit par le sexe. Il recherche avidement la partenaire, la prostituée ou juste le film porno qui comblera un tant soit peu son désir sans fin. Un jour débarque chez lui sa sœur, une jeune chanteuse qui traîne elle aussi son fardeau de non-dit et de névrose. La cohabitation va exacerber leur relation ambiguë et raviver un passé que l'on devine difficile. Alors pour ce qui est de son style, le réalisateur ne cède rien à la facilité et refuse avec autant d'acharnement les raccourcis et les facilités de narration moins âpres que Hunger qui vous arrachait les tripes et vous forçait à les manger. Shame met un peu d'eau dans son vin et pas mal de subtilité dans sa mise en scène. Bien qu'il renonce à ses variations abstraites de l'image, Steve McQueen garde un sens du décadrage insolent mais justement dosé et conserve au centre du film le très long travelling qui était déjà le point d'orgue de Hunger. Le traitement pudique et cru de cette addiction sexuelle ne bascule jamais dans la répétition ni la complaisance. Michael Fassbender sait rendre son personnage aussi brûlant que glacé, rendant les tentatives d'analyse dérisoires. Aux spectateurs qui regretteraient que le film renâcle à entrer dans les détails, on répondra que Shame s'intéresse moins aux symptômes de la maladie et à ses conséquences qu'à la honte elle-même. Le film ne tombe pas dans le piège de l'explication psychanalytique. On ne veut pas savoir pourquoi le personnage est ainsi, mais comment il le vit. Pour ceux qui savent ce qu'est une addiction, le film le retranscrit à la perfection. Le personnage de Brandon n'a pas besoin de parler pour nous transmettre son isolement, sa peur des autres et sa faculté à changer radicalement de personnalité lorsqu'il est sous l'emprise du désir. Seul détail à critiquer, sa position sociale a tendance à glamouriser un peu trop l'addiction sexuelle en dressant la liste exhaustive de toutes les perversités du parfait yuppie. Mais on imputera ce léger travers à l'élégance de la mise en scène. Difficile à aborder mais passionnant à regarder, Shame trouve un écho en nous qui dérange et fascine, le réalisateur sachant pertinemment comment user du regard caméra pour nous rappeler que c'est bien la médiocrité de notre propre condition humaine que nous contemplons dans toute cette débauche.
I wanna wake up in a city that doesn't sleep. Find I'm king of the hill, top of the hill, these vagabond shoes are longing to stray through the very heart.
Voilà, c'est un extrait donc de Shame dans lequel Carey Mulligan, la sœur de Michael Fassbender, interprète une reprise de New York, New York. Et donc Shame,
non, c'est autre chose. Décidément, c'est la grande fin pour cette dernière émission de Cinérama. Marine a été bloquée dans les transports en commun, ce qui explique une certaine nervosité. Elle a gardé son... Elle a gardé son menton en fourrure parce qu'il fait tellement froid dans ce studio qu'on se les gèle, hein, il faut le dire. Donc Shame
de Steve McQueen, c'est encore visible au Diago, à l'Utopia et au Gaumont.
Et au Gaumont, effectivement.
En version originale.
Cinérama sur Divergence FM.
Nous passons maintenant à l'interview de ce Cinérama avec Delphine Coulon, qui est réalisatrice de 17 filles, un film qu'elle a réalisé avec sa sœur. 17 filles sort aujourd'hui. Alors, il ne sort qu'au Diagonale, en revanche. Et elle est là pour nous en parler.
À 17 ans, non, on n'est pas sérieux. On rêve. Et on a une énergie de dingue. Et personne pour rien contre ça.
Je suis Delphine Coulon, je suis une des deux réalisatrices de 17 filles. Ma sœur s'appelle Muriel. Et on travaille ensemble quand on fait des films de fiction. Et autrement, on a chacune notre activité. Moi, je suis romancière et j'ai produit beaucoup de documentaires pour Arte. Et puis ma sœur réalise des documentaires quand elle est seule.
Donc ça veut dire que c'est la première fiction alors ?
Premier long métrage. On a fait 5 courts métrages ensemble. Et c'est notre premier long métrage, oui.
De ce que l'on sait aujourd'hui, nous en sommes à 15.
15 filles enceintes dans votre établissement et vous faites rien ?
Pourquoi s'être intéressé à ce fait divers, hein ? Donc c'est ces filles qui décident de tomber enceintes tout en même temps.
Bon, déjà, c'est un sujet assez insolite. Autrement, justement, nos 5 courts-métrages souvent traitaient du corps, du temps. C'est des thèmes qui nous intéressent ou même qui nous obsèdent. Et quand on a lu les 2 lignes dans la presse disant 17 filles ont décidé de tomber enceintes au sein du même lycée, on s'est dit non seulement elles sont complètement folles, mais en plus, on s'est dit c'est un sujet pour nous, on peut vraiment explorer ce que c'est que le corps d'une fille qui est en train de changer à l'adolescence, ce que c'est que le corps d'une femme qui tombe enceinte. Et on voyait qu'on allait pouvoir faire quelque chose avec ça. Et en plus, assez vite, le fait divers s'est passé aux États-Unis, dans une petite ville qui s'appelle Gloucester, dans le Massachusetts. Mais en fait, très très vite, on s'est dit que ça aurait pu arriver à Lorient, où on est nées toutes les deux, où on a grandi jusqu'à l'âge de 17 ans chacune. Et où on a tout tourné, parce que c'est des villes un peu similaires, c'est de la même taille, à peu près 100 000 habitants, c'est au bord de la mer, et ça a une importance. Dans le film, la mer est presque un personnage, en fait, parce que quand on vit au bord de la mer, c'est une présence constante, en fait, c'est quelque chose qui vous attire et qui, en même temps, peut être un peu menaçante. Et donc, ces petites villes au bord de la mer font qu'à la fois, on est dans une existence un peu étriquée, où il n'y a pas beaucoup de perspectives d'avenir, surtout ces villes-là où l'activité économique est un peu déclinante. Et en même temps, il y a l'horizon qui est constamment présent et qui suggère qu'il y a autre chose, qu'il y a peut-être un ailleurs, qu'il y a peut-être quelque chose d'infini. Donc c'est la tension entre quelque chose de tout petit et quelque chose de très grand qui fait qu'à un moment, on a envie de changer de voie, de faire autre chose que ce qu'on vous oblige à faire, quoi.
560€ avant la naissance et 748 après.
Oh, mais non, mais si on met tout en commun, on peut prendre un immense appart.
Avec des grandes chambres.
Ouais, on s'organise. On se fera émanciper, comme ça on se tapera pas les éducateurs, ouais, et leur foyer, là.
Ouais, on n'aura pas d'horaire du genre, enfin, on doit rentrer le soir à une certaine heure et tout. On se gère, quoi.
Ouais, comme on sera ensemble, on pourra s'organiser.
Faudra surtout s'organiser pour faire des tours,
ouais,
pour tout ce qui est chiant.
Ouais, vaisselle, ménage et tout, quoi.
Mais surtout, on n'entendra plus jamais les réflexions du style « Range ta chambre, viens manger,
la table.
Refais ton lit, non mais refaire son lit, quoi, j'ai jamais compris. Tant donné qu'on s'y retrouve juste tous les soirs. »
D'abord, ce qui nous intéressait, c'était l'utopie collective. C'était le fait que ces filles, à un moment donné, se mettent à rêver ensemble et à se dire « on va tout changer et on va... » Toute l'énergie qu'on sent et qu'on ne peut pas utiliser pour l'instant parce qu'on n'est pas encore adulte, eh ben, utilisons-la et inventons quelque chose. Et c'est vrai que c'est pas seulement dû à Lorient, ou je pense que un peu partout, je lisais une interview de la chanteuse de Gossip, c'est pareil. Enfin, à l'adolescence, on est contraint, on est à la fois trop petit ou trop grand, et on a envie de faire plein de choses. L'énergie monte à fond, et en même temps, tout fait qu'on est coincé quelque part, quoi. Et moi, je me rappelle très bien cet ennui-là et cette espèce de frustration à pas pouvoir faire quelque chose de ma vie, en tout cas pas immédiatement, alors que j'en avais déjà toute l'énergie et toutes les envies et toutes les idées pour le faire, quoi. Et donc ces filles-là, c'est ça, c'est à un moment donné, elles ont envie de shooter dans la petite vie étriquée qu'on leur propose et d'inventer un projet ensemble. Et c'était ça plus encore que la grossesse qui nous intéressait, en fait. C'était le fait qu'aujourd'hui, on dirait qu'il y a une seule façon de conduire sa vie et qu'elle est un petit peu attendue et un peu... C'est médiocre quand même de se dire « je vais faire mes études, je vais me trouver un travail, ensuite je vais me marier, j'aurai des enfants », tout ça dans un ordre établi. Et ça ressemble quand même beaucoup à la vie de ses parents. Je ne sais pas si ça peut faire rêver. Normalement, à l'adolescence ou un peu plus vieux, on a des envies plus hautes que ça, on a des rêves plus hauts que ça, on a des envies d'absolu, d'infini, et donc ces filles-là, elles sont comme ça. Après, elles trouvent une solution qui n'est pas forcément la meilleure et qui est de faire des enfants tout ensemble. Mais l'essentiel pour nous, c'était qu'elles rêvent déjà, qu'elles essayent autre chose.
On ne va pas devenir comme nos parents.
Non,
jamais. Ah, non. En plus, 16 ans d'écart, c'est franchement idéal. On sera proche d'eux, on les comprendra et...
Ouais. Il y aura pas le choc des générations.
Ouais. Et puis, ils seront tous comme frères et sœurs.
Enfin. Ouais. On sera comme une grande famille.
Ouais, si on fait pas de gosses, on peut quand même faire partie de la communauté hippie ou...
Ça n'a rien à voir avec une communauté hippie.
C'est toi, ouais. L'hippie, ouais.
Dans votre film, ce qu'on voit, c'est aussi un hors-champ qui est immense, c'est-à-dire que le monde des adultes et le monde masculin aussi, hein, parce qu'on est d'accord que pour faire un enfant, il faut aussi un homme, un garçon. Donc, alors, parfois, ils apparaissent dans le champ, mais c'est très très rare. Vous avez vraiment voulu suivre que ces filles.
Oui, c'était vraiment un parti pris de départ. Ça s'appelle 17 filles, et c'est vrai que ce qui nous intéresse d'abord, c'est le mystère d'une fille de 17 ans. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la tête de ces filles pour qu'elles fassent ce geste? Et donc ça, c'est sûr qu'elles sont tellement en avant-plan, et la bulle de l'amitié de ces filles est tellement en avant-plan, que du coup, les garçons sont secondaires, et les adultes encore plus. Les adultes, c'est parce que dès qu'on s'intéressait à eux, on tombait dans l'explication. Alors nous, c'était pas du tout notre propos. Nous, on avait envie d'un film sans explication psychologique ou sociologique qui nous intéresse finalement assez peu. Or, les adultes, ils sont forcément là-dedans. Au départ, même dans une première version du scénario, ils étaient carrément hors champ. Finalement, ils ont quelques scènes pour montrer qu'ils ne sont pas absents non plus, qu'ils existent dans la vie de ces filles. Simplement, ils sont complètement dépassés par les événements et par cette énergie féminine débordante. Les garçons, c'est différent. On a deux beaux personnages de garçons que nous on trouve beaux en tout cas et auxquels on est attachés, qui sont le frère de l'héroïne principale, puisqu'il y a donc une leader, hein, il y a une chef dans ce groupe de 17 filles. C'est elle qui tombe enceinte en premier et qui après va convaincre toutes les autres et qui va faire qu'il va y avoir un effet boule de neige. Et elle a un frère donc qui lui aussi avait des envies plus haute que ce qu'on lui proposait et qui s'est engagée dans l'armée parce que Lorient est une ville militaire et en fait souvent c'est le côté masculin de ce désarroi là, c'est que pour changer de vie radicalement et immédiatement, bah, les filles elles peuvent faire un bébé et les garçons ils peuvent s'engager dans l'armée et c'est assez fréquent à Lorient en fait. Et donc lui il s'est engagé dans l'armée, il est parti en Afghanistan. On a rencontré pas mal de garçons d'ailleurs de cet âge là, 20-25 ans, qui ont fait la guerre, et c'est assez bouleversant. Donc ce personnage-là, ouais, nous importe parce que c'est vraiment l'alter ego de Camille, et il dit à un moment, c'est le seul adulte en fait qui dit à sa sœur, ça va foirer votre truc, ça va pas marcher. Et il est franc avec elle parce que lui a subi une désillusion, et du coup il voit que leur projet de groupe, d'avoir une grossesse collective comme ça c'est peut-être voué à l'échec. Et puis, il y a un deuxième garçon qui nous importe aussi, c'est justement le petit copain de l'héroïne principale, qui au début, il a 18 ans et il a passé une nuit avec une fille et cette fille se retrouve enceinte. Moi, je me mets à sa place, ça doit pas être très rigolo. Et ça lui tombe vraiment dessus et il a une réaction égoïste comme j'imagine, c'est assez fréquent. En tout cas, dans le vrai fait divers, il y en a eu beaucoup qui ont réagi comme ça. C'est-à-dire, surtout, j'ai pas envie d'en entendre parler. Et si la fille veut le garder, moi, j'ai pas du tout décidé ça, donc j'en veux pas. Et puis, petit à petit, il grandit au cours du film. Et ça devient un personnage plus complexe, parce que la réalité est plus complexe que ça. C'est quand même le père d'un bébé qui à venir. Et donc, oui, on va pas tout dire, mais oui, de deux bébés dans le film. Et du coup, il prend conscience de la complexité de tout ça, de l'attachement qu'il a pour une des deux filles. Donc tout ça se corse et fait de lui quelqu'un qui, au départ, semble juste être un garçon égoïste de cet âge-là et qui, finalement, est plus attachant que ça, quoi, je crois.
Non, mais ils disent que je suis pas prête.
C'est pas vrai.
Arrête. Et puis, en plus, ils disent ça tout le temps et pour tout.
Non, mais physiquement. Ils disent qu'elle est trop petite et qu'elle risque d'y rester.
Non, mais c'est des conneries, ça. C'est pour nous faire peur. De toute façon, ils savent faire que ça. Ils ont peur de tout. Ils ont peur de vieillir, ils ont peur de mourir, ils ont peur de faire leur boulot. Mais...
Juste vinemerde.com, quoi.
Moi, carrément, ma mère, elle veut plus me parler.
Moi, j'ai même pas dit.
Alors, Delphine Coulin, pour reparler justement de l'empreinte que met un cinéaste dans son film, au niveau de l'ambiance, est-ce que vous êtes posé la question, est-ce que je fais un film plutôt sérieux, plutôt grave, ou alors est-ce que je fais un film avec de la légèreté? Enfin, comment ça se passe finalement, le dosage, parce qu'il y a les deux ingrédients hein, quand même dans votre film, comment ça se passe ce dosage-là?
Vous touchez juste parce que dès l'écriture, c'était quelque chose qu'on voulait atteindre, un milieu entre la comédie et le drame. Et parce que il y a ça à l'adolescence, il y a à la fois on est dans un groupe de copines et on n'arrête pas de se marrer ensemble, il y a une énergie folle, et en même temps, dès qu'on se retrouve tout seul, on a une profondeur à cet âge-là, une lucidité, une mélancolie souvent. Et donc on cherchait, puis même dans les films, moi j'aime bien quand on a envie de rire et pleurer en même temps en fait. Et donc on a vraiment cherché à garder ce fil-là entre rire et larmes tout le long. Et c'est vrai qu'il y a des pures scènes de comédie parce qu'il y a plein de trucs drôles, forcément. Enfin, c'est tellement un pari fou qu'elles font que. Et puis oui, c'est un groupe de filles de 17 ans, donc il y a forcément plein de choses assez rigolotes. Et en même temps, on sent que le rêve qu'elles se sont construit va sans doute pas super bien se passer, en tout cas pas pour toutes. Et du coup, il y a aussi. Puis il y a une gravité, c'est quand même quelque chose d'important de mettre au monde un bébé. Donc c'est vrai qu'on a cherché ce mélange-là. Comme on a cherché aussi un mélange entre le réalisme et le conte, parce qu'à la fois ça vient vraiment d'un fait réel, et en même temps, il y a quand même un côté 17 princesses décident de rencontrer des princes en même temps. Enfin, il y a quelque chose d'un peu conte comme ça. Et du coup, ça aussi, c'était quelque chose de compliqué à garder. C'était qu'à la fois ce soit réaliste et qu'en même temps, on soit constamment dans la fable. Quoi. C'était des milieux pas faciles à garder, aussi bien à l'écriture qu'à la réalisation.
Alors le film est rythmé aussi par des petites séquences où on voit ces filles, enfin certaines filles, pas forcément les 17 d'ailleurs, elles sont dans leur chambre et elles font précisément pas grand-chose. Donc ça, c'est quelque chose qui vous vient du documentaire, parce que c'est, enfin, finalement, filmer quelqu'un qui fait pas grand chose, c'est pas non plus très évident. Hein.
Non, c'est vrai, c'est des plans documentaires. En fait, ce sont nos filles dans leur vraie chambre, et c'était des moments de suspension, effectivement, qu'on voulait, parce que autrement, ça va quand même assez à 100 à l'heure, le film, et on se disait, forcément, ces filles, à un moment donné, elles ont dû réfléchir soit avant de le faire, soit après, mais il y a forcément des moments où elles ont dû avoir un peu le vertige de ce qu'elles allaient faire ou de ce qu'elles avaient fait. Et donc, et puis, c'est quand même l'âge où on passe le plus de temps dans sa vie à rêvasser dans sa chambre, quoi. Après, on a un petit peu moins de temps pour ça. Et du coup, on est allé donc dans les vraies chambres des filles Et là, vous ouvrez la porte de la chambre et c'est tout un univers qui s'offre à vous. On n'a rien besoin de changer. C'était magnifique, quoi. On avait d'un coup une chambre monochrome rose, dans une autre chambre entièrement dédiée à Marilyn Monroe. Enfin, le meilleur chef décorateur du monde n'aura pas pu inventer ça. Et ça nous plaisait. Du coup, on a fait un vrai travail documentaire avec chacune des filles, où on leur a demandé de réfléchir à une émotion intime. Dont on rêve, enfin, on, et à quelque chose de leur vie de précis, reflétant cette émotion. Et on était seuls, Muriel et moi, parfois notre chef-op, mais il n'y avait pas l'équipe, avec la fille, et on leur a promis que jamais on ne révélerait ce qu'on s'était dit dans cette pièce, mais qu'en revanche, on allait filmer en longueur la fille réfléchissant à ça. Et donc, on a filmé des heures et on a gardé à chaque fois 20 secondes ou 30 secondes le moment où il se passe vraiment, où on a vraiment l'impression de lire quelque chose sur ses visages. Et c'était un travail vraiment passionnant à faire. Et justement, à la fois stylisé, à la fois c'est des plans très, très fictionnels et en même temps complètement réels.
Voilà, donc c'était Delphine Coulin et non pas Coulon, donc co-réalisatrice de 17 filles, un film qui sort aujourd'hui, qui est projeté au cinéma Diagonale. Donc j'espère que l'interview rendait bien cet aspect effectivement fictionnel où elle s'intéresse aux filles essentiellement, à ces 17 filles. Et puis bien des petite touche documentaire, et comme le soulignait la dernière question, finalement, filmer quelqu'un qui ne fait rien, enfin, c'est jamais très évident au cinéma, et je trouve que ça, c'est particulièrement réussi dans ce film, donc 17 filles, avec des personnages féminins, la mère très importante, puisque ça se passe à Lorient, les garçons un peu absents. Voilà, et je vous le recommande quand même, ce film.
Cinérama.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Allez, maintenant on passe à une grosse production puisqu'il s'agit du dernier Luc Besson. Alors initialement réalisé pour aider à la libération de Aung San Suu Kyi, la célèbre dissidente birmane The Lady. Pardon.
C'est la forme.
The Lady sera finalement achevée après sa remise en liberté. Il n'en reste pas moins que le message du film, qui montre la dictature en Birmanie et la lutte de cette femme prix Nobel de la paix, demeure intact. Le cahier des charges du biopic est respecté à la lettre, incluant flashbacks d'enfance et narrations chronologiques sans surprise. Si l'on sent, à de fugaces instants, le goût du carnage propre à Besson qui nous avait ravis dans Léon ou Nikita, le peu de violence présente dans le film est largement enfoui sous une énorme couche de bons sentiments. Le parcours politique de Aung San Suu Kyi, qui a été poussé par son peuple à s'élever contre la junte militaire, est laissé de côté au profit de l'histoire bien plus larmoyante de sa famille. Peu importe comment cette femme habitant en Angleterre devient une combattante de la liberté, par la magie du cinéma de Besson, elle se retrouve à faire un discours devant 1 million de personnes sur un coup de tête. En revanche, on s'éternise à n'en plus finir sur les passages dramatiques, on inclut environ 15 scènes de retrouvailles larmoyantes sur les 2 heures de film et on insiste surtout sur le choix tragique qu'a dû faire Aung San Suu Kyi entre son pays et sa famille.
Allô ? On a emmené votre maman à l'hôpital central ce matin. Je pense que ce serait bien si vous pouviez venir.
Ma mère vient d'avoir une attaque.
Tu reviens dans combien de temps ?
Une semaine. Peut-être 2.
Ce matin, l'armée a ouvert le feu sur les étudiants près de l'hôpital central, faisant de nombreuses victimes.
Madame, nous sommes convaincus que vous seule avez la capacité de faire de la Birmanie un État démocratique. Votre père s'est battu pour obtenir l'indépendance de la Birmanie. L'occasion se présente de finir son travail.
Nous devons mettre de côté nos divergences. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons être unis. Et ensemble, nous marcherons vers une destinée meilleure.
Alors on parvient à s'intéresser au destin de cette femme grâce à l'interprétation sans faille et quasi mimétique de Michelle Yeoh, mais on déplore que la retranscription de la dictature soit tant édulcorée. Sans doute un peu perturbé par son dernier chef-d'œuvre Arthur et les Minimoys, Luc Besson n'a pas pu s'empêcher de céder à un manichéisme lourd pour se simplifier la tâche et ne pas trop faire réfléchir son spectateur. Les gentils birmans révolutionnaires sont donc beaux et bien habillés, tandis que les méchants birmans de la junte ont la peau pourrie et les dents jaunes, rient grassement et suintent de sueur. De même, Luc Besson use d'une mise en scène aussi pauvre que les décors sont luxuriants et tombe même dans un académisme mollasson. Au final, un joli film sur fond vert, très répétitif et pas vraiment transcendant, qui aurait aisément pu être le fait de n'importe quel cinéaste, tant la signature Besson s'estompe derrière la présence de Michel Yu à l'origine du projet et auteur du scénario. Et manque de goût suprême, on retrouve dans la bande originale pas très originale ceci. Oui, c'est encore Arthur Rubinstein, la musique que nous nous sommes tapés cette année dans La Polonie, dans Après le Sud et dans la pub Air France. Bravo au cinéma français pour sa créativité. Bref, devant tant de banalités, on ne peut qu'enjoindre ce vieux réalisateur à prendre enfin une retraite bien méritée.
Hommage donc à Luc Besson et son film The Lady est projeté au Gaumont et au CGR.
Cinérama.
Bon, est-ce que de voir ce film, ça vaut le coup de se prendre une méga prune, fourrière et compagnie ?
Sur Divergence FM.
Tout autre chose maintenant avec Okis Movie, un film coréen. Il s'agit du nouveau film de Hong Sang-soo qui était déjà d'actualité il y a à peine quelques mois avec A.A.A., c'est le titre du film. Imbibé du cinéma de Bresson, ce réalisateur prolixe à la notoriété encore confidentielle et davantage habitué aux festivals qu'aux succès commerciaux. Hormis son unique grosse production Turning Gate il y a une dizaine d'années, il s'est fait un nom grâce à des films aux titres tous plus énigmatiques les uns que les autres. Le jour où le cochon est tombé dans le puits, la vierge mise à nu par ses prétendants ou encore La femme et l'avenir de l'homme. Cette fâcheuse tendance des années 2000 à coller des titres anglais aux films asiatiques n'épargne pas ses derniers films, Night and Day, Woman on the Beach et donc Okis Movie. Ambiance.
Ok.
Bon,
c'est
un
bon sens. Allez. Bon, bon, c'est bon. Non, mais un coup de pouce.
Non, non, mais un coup de pouce. Ah, papa, il doit être! Ah, qu'est-ce que c'est? 갑자기 다들 나 좋다고 난리가 난리.
내가 너 얼마나 예뻐하는지 모르지?
알아요. 섹스하니까 좋아.
그런 소리 하지 마.
알았어. 배고프다.
선생님 성형은 어떻게 얘기하세요?
누가 성욕한테 이기냐? 너 그런 사람 본 적 있어? 안 돼. 나 고민하지 마.
난 정말 아무것도 바라는 게 없어. 너랑 이렇게 같이 있으면 돼. 진짜 나.
Croyant avec conviction au processus de création, Hong Sang-soo fait travailler ses acteurs directement sur le tournage et invente les scènes au fur et à mesure grâce à leur improvisation, l'ennui étant que cela se ressent un peu. Okis Movie est formé de 4 sketchs sous forme de courts-métrages de fin d'études. Si l'idée de départ est originale, le contenu l'est moins. Les différents films se focalisent sur 3 personnages, dont une étudiante en cinéma que se partagent son professeur et son camarade de cours. Tournés dans des styles trop similaires pour que l'exercice soit intéressant, les sketchs entendent montrer les différents points de vue sur leurs relations et se situer dans des temporalités sans chronologie. Malgré les idées de cinéma que l'on sent transparaître et les subtilités relationnelles qui émergent entre personnages au détour d'une scène ou de l'autre, on peine à s'intéresser vraiment à ce trio qui manque de couleurs. L'humour coréen pouvant paraître légèrement hermétique aux cerveaux occidentaux, il est difficile de trouver cocasse des situations traitées avec autant de distance. L'improvisation montre ici ses limites, et si les acteurs jouent bien, leur dialogue répétitif et lacunaire n'aide pas le spectateur à suivre avec plaisir leurs états d'âme. Okis Movie est un hommage à la création cinématographique, mais il est facilement oubliable. L'expérience restera donc anecdotique, et encore. Et si vous voulez quand même le voir, cette diagonale.
Cinérama.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes.
Nous passons maintenant à l'agenda pour terminer cette émission. Le jeudi 15 décembre, donc c'est demain, au Diagonal à 19h50, il y a Slovenian Girl de Damjan Kozol. C'est une séance suivie de débat animée par des bénévoles au Mouvement d'Uni, association qui lutte contre les causes et les conséquences de la prostitution. On en a parlé dans cette émission avec notre invité en début d'émission. Demain à 20h30, c'est l'absurde séance au cinéma Utopia. Les Dents de la Mer de Steven Spielberg sera projetée. Le samedi 17 décembre à 18h, salle Rabelais, c'est Regards d'Afghans sur Kaboul, trois films documentaires réalisés par les élèves des ateliers Varan. Atelier Varan, donc, c'est une sorte de formation qui s'occupe du documentaire. Et donc, ce sont... Alors, comment on appelle les gens qui habitent Kaboul ? On ne sait pas ça, on n'a pas cette info. Enfin voilà, donc ce sont des réalisateurs à Kaboul qui ont filmé les rues de leur ville, et ça s'appelle justement les rues de Kaboul. Et la séance sera suivie d'un débat animé par l'association Adam. Le lundi 19 décembre à 19h50, c'est une avant-première au cinéma Diagonal. C'est le film d'Aki Korismaki, Le Havre, qui était en compétition à Cannes cette année. Et c'est une séance suivie de débats avec les associations œcuménicité et profil. Et je ne sais pas de quoi s'occupent ces gens. Mercredi 21 décembre, donc ça c'est un peu plus loin, puisqu'il n'y aura pas d'émission. Le 21 décembre, on ne pourra pas vous en parler. Mais il y a un ciné-concert à 17h40 au cinéma Diagonal avec DJ Rebel. Les folles inventions de Monsieur Bricolo de Charley Bowers. Alors vous ajouterez au tarif normal 2 euros, hein, puisque c'est un ciné-concert, ce sont les habitudes du Diago, en partenariat avec le festival 100%, donc ce ciné-concert dans le cadre du festival du ciné des enfants. Et puis une dernière avant-première, ce sera le lendemain, le 22 décembre, cette fois-ci au Gaumont Multiplex à 20h30, de L'amour dure 3 ans, réalisé par Frédéric Becbédé, avec Louise Bourgoin, Gaspard Proust et Joey Starr. Et seront présents Frédéric Becbédé, Louise Bourgoin et Joey Starr, normalement, qui devraient être là. Alors, il y a une rencontre qui est prévue avec la presse le lendemain. Est-ce que Joey Starr et Becbédé me feront rester ici dans la région jusqu'au vendredi 23? Je n'en sais encore rien. Mais voilà, ce sera intéressant d'avoir quand même Joey Starr.
Oui.
Même si je l'ai déjà entendu dans les interviews, il n'est pas forcément très très bavard. Voilà.
Becbédé sera beaucoup plus volubile.
Je pense, voilà. Alors, toujours à l'Utopia, en revanche, Donoma, le jour est là, je m'appelle Bernadette Gig, l'exercice de l'État que je vous recommande toujours, La source des femmes que Marine ne recommande pas, Le cochon de Gaza, donc toujours cette comédie intéressante, Le vilain petit canard. Il y a Les Géants, Les Marches du Pouvoir, Les Révoltés de l'île du Diable, Police, avec Joey Starr, The Artist et Toutes nos envies. Et puis sinon, Marine, tu avais quelque chose à dire à Bruno, notre technicien, j'imagine? Non, même pas du tout.
Non, et tout de suite après, il y aura donc un 24 notes secondes consacré cette semaine à Rochneider.
À Rochneider. Ah, ça tombe bien, superbe. Et donc, eh bien, c'était...
Et puis, moi, je vais aller dormir pendant un mois et on se retrouvera en forme en janvier.
On se retrouvera, je l'espère, en forme en janvier. Alors, la date n'est pas encore totalement choisie, puisque Divergence va sommeiller quelque temps pour faire des réparations diverses et variées, normalement jusqu'au 15 janvier, mais peut-être que Cinérama viendra dans une formule un peu courte, début janvier. Voilà, comme on a l'habitude de le faire.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré pendu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Voilà, donc j'ai pas pu voir Mission Impossible. J'ai préféré aller voir de la danse hier. Mais en tout cas, il est sorti sur les écrans comme Udo Cabrette de Martin Scorsese. Voilà, Marine, merci beaucoup. À l'année prochaine. Merci à Bruno.
Voilà, bonne fête à tous et à dans un mois.
Cinérama.
Il n'y a que des combines, il n'y a pas de héros, rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs, rien que des combines et de la merde. Il n'y a pas de saints, il n'y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.